Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors cette semaine, nous sommes en compagnie de Claude Debussy. Claude Debussy, dont je vous rappelle que c'était récemment le centenaire de sa mort, puisqu'il est né en 1862 et mort en 1918. Tenez, vous vous souvenez du billet de 20 francs? Mais oui, ce billet qui est apparu quelques mois après l'élection de François Mitterrand et qui malheureusement a disparu au moment du passage à l'euro. En moi petit, j'étais très impressionné de voir qu'un billet de banque pouvait porter la figure d'un compositeur de musique classique. D'ailleurs, ça n'est arrivé que deux fois dans l'histoire de la Banque de France. Une fois pour Berlioz, c'était le billet de 10 francs. Et une fois pour Debussy, c'était le billet de 20 francs. C'est drôle d'ailleurs parce que ces deux compositeurs sont sans doute ceux dans l'histoire de la musique française qui ont connu le plus de problèmes d'argent au cours de leur vie. Enfin bref, maintenant le billet Debussy de 20 francs n'a plus cours. Mais bien sûr, sa musique reste toujours aussi vivante, toujours aussi belle. Et je vous propose cette semaine de continuer le voyage commencé la semaine dernière au sein des œuvres de jeunesse de Claude Debussy. Oui, vous vous rappelez, nous nous sommes posé gravement la question, comment Debussy est-il devenu Debussy ? Autrement dit, comment est-ce qu'il est passé de ses premières pièces, écrites alors qu'il commençait la musique, qu'il entrait pour faire ses études au Conservatoire de Paris, jusqu'à ses grands chefs-d'œuvre que vont bientôt être le Quatuor à cordes et le Prélude à l'après-midi d'un faune. Alors nous allons commencer l'émission avec une œuvre que j'adore et qui n'est pas connue du tout, la Fantaisie pour piano et orchestre. C'est une œuvre qui comprend trois mouvements, composés à l'âge de 28 ans par Debussy, et c'est en quelque sorte le concerto pour piano et orchestre de Debussy. Une œuvre singulière, virtuose, vibrillonnante, foisonnante même. Seulement voilà, grande question. Si nous découvrions maintenant cette musique sans savoir que c'est de Debussy, est-ce que nous attribuerions cette pièce à Debussy ? Ça n'est pas sûr, mais ce qui est certain, en tout cas je le pense, c'est que nous serions entièrement conquis par ce que nous allons entendre maintenant. Thank you. C'était le final de la fantaisie pour piano et orchestre de Claude Debussy. L'orchestre du Festival de Budapest était placé sous la direction d'Ivan Fischer. Et c'était Zoltán Coxis au piano, le célèbre pianiste et chef d'orchestre hongrois, un enfant prodige, né en 52, mort en 2016, et comme toujours un grand adepte des tempos rapides. Oui, c'est quelque chose évidemment qui me fait toujours un petit peu hésiter. J'adore les interprétations de Zoltán Coxis, mais de temps en temps, évidemment, il abuse des tempos rapides. Eh bien, je vais pourtant vous en proposer un tout de suite avec cette valse romantique. Une valse romantique de jeunesse, bien sûr, puisque l'émission est consacrée aux œuvres de jeunesse de Debussy. Une valse que nous avions déjà diffusée en avril 2017 sous les doigts de Jean-Yves Thibaudet, un tempo raisonnable. Mais là, vous allez entendre un tempo particulièrement rapide. La valse fait une minute de moins quand elle est interprétée par Coxis que quand elle est interprétée par Thibaudet. Mais c'est intéressant parce que du coup, cette valse, au lieu d'être romantique, va plutôt du côté du café-concert. Alors, romantisme ou cafcons, à vous de décider. C'était la valse romantique de Debussy, une œuvre de jeunesse interprétée par le pianiste hongrois Zoltán Coxis. Alors la semaine dernière, nous avons parlé des grandes orchestrations des pièces pour piano de Debussy. Nous avons évoqué notamment la très brillante orchestration qu'a faite Henri Bussert des quatre mouvements de la petite suite pour piano à quatre mains. Et cette semaine, j'aimerais vous faire entendre une curiosité avec l'orchestration qu'a réalisé André Caplet du Clair de Lune de la suite bergamasque. Mais oui, le Clair de Lune, on l'entend toujours pour piano. Mais vous allez voir, dans l'orchestration d'André Caplet, ça change en quelque sorte le caractère de la pièce. Mais oui, la douceur rêveuse de la pièce pour piano s'anime, se romantise, laissant passer un peu plus de mélancolie et même, me semble-t-il, un peu plus d'inquiétude. Donc, Le Clair de Lune de Claude Debussy, orchestré par André Caplet, c'était l'un de ses grands amis, par l'orchestre d'Ulster sous la direction de Yann-Pascal Tortelier. Thank you. La version orchestrale du célèbre Clair de Lune de Claude Debussy, une orchestration signée André Caplet, et c'était l'orchestre d'Ulster, dirigé par Yann Pascal Tortelier, un excellent chef d'orchestre, fils du grand violoncelliste Paul Tortelier, toujours aussi juste dans la musique française. Alors le Clair de Lune de Claude Debussy n'est pas une pièce isolée, c'est le troisième mouvement de la suite bergamasque, et j'aimerais bien qu'on enchaîne avec le quatrième et dernier mouvement, le passe-pied. J'aime beaucoup le Clair de Lune, mais je crois que j'ai encore plus d'affection pour ce passe-pied qui est une sorte d'évocation imaginaire du passé. Parce que passe-pied, ce n'est pas un véritable passe-pied. Non, mais j'imagine bien, comment dire, des marquises, des duchesses, une reconstitution de musique d'époque. Vous savez, comme dans les tableaux de Watteau du début du XVIIIe siècle. Enfin, le passé tel qu'il a été rêvé par Claude Debussy. D'ailleurs, au départ, ce passe-pied avait été intitulé Pavane. C'était le premier titre qu'avait donné Debussy. Je ne sais pas pourquoi il a changé. Peut-être qu'il n'a pas voulu que nous confondions avec la célèbre Pavane de Forêt. Enfin bref, nous revenons au piano et nous écoutons maintenant le passe-pied de la suite bergamasque de Claude Debussy. C'était le passe-pied final de la suite bergamasque de Claude Debussy, interprété par le grand Walter Gieseking, un pianiste allemand de la première moitié du XXe siècle, et sans doute l'un des plus grands interprètes de Ravel et de Debussy, compositeur dont il a enregistré l'intégrale. Alors tout à l'heure, nous avons parlé d'orchestration de pièces primitivement écrites pour le piano, et je voudrais maintenant qu'on écoute la plus célèbre de toutes les orchestrations jamais réalisées à partir d'une pièce de piano de Debussy, puisqu'elle est signée Maurice Ravel en personne. La pièce qu'a orchestrée Maurice Ravel s'intitule « Danse ou tarentelle styrienne ». Selon les éditions, vous avez les deux titres. Tarentelle styrienne, à mon avis, c'est un peu abusé parce qu'on n'a jamais dansé la tarentelle en Styrie, qui est une province autrichienne. C'est sans doute pour cette raison que Debussy a utilisé, à partir d'un certain moment, un autre titre plus simple, « Danse ». Une danse écrite à l'âge de 29 ans, 1891, et qui va être orchestrée en 1923 par Maurice Ravel. Et je trouve que l'orchestration de Ravel est formidable, qu'elle met particulièrement en valeur la gaieté, l'élan, la joie de vivre de la musique de Debussy.
Thank you.
Quel enthousiasme, quel rythme. C'était la tarentelle styrienne de Claude Debussy dans l'orchestration de Maurice Ravel par l'Orchestre National de l'ORTF sous la direction de Jean Martinon. Et maintenant un peu de voix, si vous le voulez bien, pour ne pas oublier que Debussy adorait la voix et qu'il a composé de très nombreuses mélodies. Nous commençons par En sourdine sur un texte de Paul Verlaine tiré des Fêtes galantes. Quand solennel le soir des chênes noirs tombera, voix de notre désespoir, le rossignol chantera. C'était la si jolie voix de Sandrine Piau interprétant avec ferveur la mélodie en sourdine de Claude Debussy, accompagnée au piano par Suzanne Manoff. Alors après la voix de femme, la voix d'homme, avec une autre mélodie de jeunesse moins connue, intitulée Les cloches. Les cloches sur un poème de Paul Bourget, les cloches tintaient légères et franches dans le ciel clément. Alors j'aime beaucoup cette mélodie parce que j'ai l'impression qu'il y a en quelque sorte deux plans. Je m'imagine dans la campagne et puis les cloches de différentes églises se mettent à tinter, à se répondre les unes les autres. Et en quelque sorte j'ai l'impression que le piano incarne ce qu'on entend, c'est-à-dire les cloches, tandis que la voix dit ce que l'on ressent lorsqu'on écoute les cloches tinter au lointain.
Les feuilles s'ouvraient sur le bord des branches délicatement. Les cloches tintaient légères et franches dans le ciel clément. Et fervent comme une antillienne, ce lointain appel me remémorait la blancheur chrétienne des fleurs de l'autel. nombreuses années, et dans le grand bois semblaient verdir les feuilles fanées. Des jours d'autres
les cloches tintinabulaient doucement à travers le piano, environnant l'expression si persuasive du grand baryton basse français Gabriel Baquier. Nous écoutions les cloches de Claude Debussy, un enregistrement daté de 1962. Et maintenant, voilà, nous y sommes. Debussy a 31 ans et il écrit son quatuor à cordes. Enfin, je ne voudrais pas que vous pensiez que Debussy, avant le quatuor, n'a pas composé de belles et même de grandes musiques. J'adore Printemps, j'adore la fantaisie pour piano et orchestre, par exemple. Seulement voilà, le quatuor, c'est joué dans le monde entier. Tous les quatuors à cordes de la planète ont le quatuor de Debussy à leur répertoire. Alors ce quatuor est en quatre mouvements et je vous propose d'en isoler le scherzo, c'est-à-dire la pièce la plus vive, la plus malicieuse. Et le scherzo du quatuor de Debussy est particulièrement léger, féerique, une dentelle de pizzicato, de trilles et de batteries aériennes. Un scherzo obsessionnel aussi, avec son motif unique de quatre notes, yapapapam, yapapapam, répété près d'une centaine de fois, du médium à aigu en passant par le grave, et nous retrouvons tout de suite le quatuor Orlando, l'une de mes interprétations préférées.
Thank you.
Nous écoutions le second mouvement, c'est-à-dire le pétillant scherzo du Quatuor de Claude Debussy, interprété par le Quatuor Orlando. Et nous terminons notre émission, notre grand voyage qui nous a mené des premières œuvres de jeunesse au premier grand chef-d'œuvre par le célèbre prélude à l'après-midi d'un faune pour orchestre. Debussy a 32 ans lorsque le 22 décembre 1894 à Paris, les spectateurs entendent pour la première fois ce début si incroyable, incroyable de mystère, de poésie, ce solo de flûte sans accompagnement, puis un peu de silence, quelques arpèges de harpe. Un vent nouveau souffle sur la musique, une nouvelle manière de faire de la musique est née. Et Ravel déclarera plus tard, c'est en entendant pour la première fois le prélude à l'après-midi d'un faune que j'ai compris ce que pouvait être la musique. Alors l'après-midi d'un faune, c'est un poème de Mallarmé, un poème qu'adore Debussy, dont il va écrire le prélude. Et puisque le poème de Mallarmé fait 110 vers, eh bien le prélude à l'après-midi d'un faune fera très exactement 110 mesures. Et alors pour la petite histoire, même si je sais que c'est un peu anecdotique, moi j'ai toujours été frappé par la dédicace de la partition du prélude à l'après-midi d'un faune. En effet, cette composition est dédiée à un certain Raymond Bonheur. Eh bien, ce mot de bonheur, moi je trouve qu'il va très très bien avec la musique du prélude à l'après-midi d'un faune. Bonheur, liberté, sensualité que nous allons retrouver maintenant. Et je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile de choisir entre toutes les versions de ce grand chef-d'œuvre. Et finalement, j'en ai choisi une qui est un petit peu ancienne, la version de Pierre Monteux, et qui comprend un petit peu de souffle. J'espère que vous pardonnerez ce souffle, car vous serez emporté par le grand souffle musical qu'imprime Pierre Monteux à cette si belle partition. Donc nous retrouvons Debussy, le prélude à l'après-midi d'un faune, le London Symphony Orchestra, sous la direction de Pierre Monteux.
Thank you.
Nous écoutions le merveilleux prélude à l'après-midi d'un faune par le London Symphony Orchestra sous la direction de Pierre Monteux. C'était la dernière étape de notre grand voyage qui nous a mené des premières œuvres de jeunesse au premier chef-d'œuvre de Debussy pour ce cycle de deux émissions intitulé « Comment Debussy est devenu Debussy ». C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Dorian Serre. Chef opérateur du son, Kevin Pelot. À la semaine prochaine.